Jardin.
Exploration
public.
De la fourmilière artistique qu'est Bruxelles. Jardin public.
Musique, théâtre, expo.
Salut Cesse.
Blind test.
18h-19h, le quatrième jeudi du mois sur Radio Panique 105.4 FM.
As I got a gun, this brain is driving me insane. And I don't like the ride, so push that best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock.
On s'est écouté à l'instant Human Fly du groupe mythique de rockabilly américain The Cramps. Bienvenue dans votre potager culturel et artistique, le jardin public de Radio Panique avec un K sur le 105.4 FM et en stream bien entendu avec Radio Panique et toujours le petit K.org. Réau micro aujourd'hui pour partager avec vous l'existence, comme vous le savez, de lieux culturels insolites à Bruxelles. Alors, pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai le plaisir d'accueillir pendant 60 minutes une galerie d'art associative et bruxelloise qui donne l'opportunité à des artistes émergents et expérimentés d'ici, mais aussi d'ailleurs, de pouvoir exprimer leur plein potentiel artistique, notamment bien sûr via des expositions, des livres artistiques, des ateliers ou d'autres types de manifestations culturelles. Alors un style cependant, celui, ils disent, donc d'un art contemporain, alternatif et hors norme, que d'aucuns qualifieraient d'une expression brute, viscérale, qui parfois dépasse même les frontières de l'imagination. Alors du jeudi au dimanche, on navigue au travers de toute une série d'événements organisés par l'ASBL E au carré, la structure associative donc ancrée au lieu qui attire notre attention de ce soir, le Sterput. Un lieu à l'agenda bien chargé puisqu'on peut déjà vous dire que le mois de novembre sera riche en couleurs et en émotions, notamment avec le vernissage de l'exposition de Motohiro Akawa, Ayakawa et de Diego Lazarin le jeudi 9 novembre de 17h à 20h autour du grotesque et de la science-fiction. Deux jours plus tard, le 11 novembre, le workshop Monster Mix et Chao Ticollage, animé également par Diego Lazarin. Voilà, alors vous trouverez bien sûr l'ensemble des événements du Sterput dans leur agenda via leur site asterput.org, galerie d'art associative. Alors avec moi pour parler bien entendu, du Stirput, de la vision de l'ASBL au carré et de toutes les ramifications. Donc porteur de ce projet artistique, ben j'accueille Hélène Mario, Vincent Wegner et Marion Bertrand. Alors welcome bien entendu à toutes et à tous dans l'émission Jardin Public. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Voilà, ben, très heureux, bien entendu, voilà, de vous avoir avec moi aujourd'hui et de pouvoir un peu naviguer ensemble, hein, donc dans les méandres donc de du Stirput. Alors, avant même de rentrer, je dirais dans nos échanges, petite parenthèse quand même pour les curieuses et les curieux, hein, qui bien entendu adorent s'abreuver, enfin voilà, toutes les musiques que l'on passe. Sachez qu'aujourd'hui, le thème sera emprunté au punk rock et au psychobilly, hein, qui ponturera donc cette émission. Donc en complément, bien sûr, de The Cramps, on aura également The Meteors, The Misfits et Demented Argo. Alors voilà, je vais bien entendu aller rejoindre mes invités, bien entendu, de l'autre côté de l'isoloir, comme je l'appelle. Mais avant de vous rejoindre, peut-être, ben, si vous le souhaitez, partager un peu vos parcours respectifs, un peu. Dites, partagez un peu, voilà, avec nos auditrices, nos auditeurs, un peu qui vous êtes et comment vous en êtes, quelque part, à vous retrouver, à converger vers, en fait, le Stirput. Et je vous rejoins. Qui prend la parole? Honneur d'âme ou alors honneur Vincent?
Moi, je vais commencer. Donc, moi, c'est Vincent Wegner. Et du coup, je suis artiste, sérigraphe. Et en fait, j'ai rejoint le Stirput il n'y a pas si longtemps. J'ai rejoint le Stirput en 2018 et, en tant que bénévole. Mais ce qu'il y a, c'est que la première fois que j'ai été approché par Émilie, qui a donc créé la SBL Carré, c'était pour participer à des expositions. Qu'elle organisait sous le nom E carré encore à l'époque. C'est-à-dire que le Stirput et E carré, c'est comment dire, deux choses différentes et un peu la même chose aussi en même temps. Mm-hmm. Donc en fait, E carré, c'est la SBL et le Stirput, c'est le lieu en fait.
D'accord.
Okay. Et donc au début, il n'y avait pas, quand ça a commencé, il n'y avait pas de lieu. Vraiment, à vrai dire, ça a commencé en 2013, voilà.
De la 10 ans cette année.
Ouais. Oui. Et en fait, qu'ils organisaient des expositions, et puis c'est comme ça que j'ai rejoint la SBL, parce que Emily m'avait exposé en tant qu'artiste, et après je suis rentré dedans en tant que membre. Mais c'est un peu, comment dire, je ne sais pas si vous me suivez.
On va dire un peu par la force des choses et voilà, par la force des événements. Voilà, tu t'es retrouvé là-dedans et voilà. Et donc, tu es également porteur, bien sûr, voilà, de ce beau projet. Oui. Voilà, qui va fêter bientôt, effectivement, ses 10 ans. Vous fêtez quand vos 10 ans exactement? Ou c'est déjà passé?
C'est l'année en entier. Voilà,
d'accord.
Le projet a commencé en 2013. Ouais. C'est un projet itinérant à la base. Donc, la SBL a 10 ans cette année.
Ah oui, un projet itinérant, d'accord. Ah, mais c'est génial ça. Chapeau bas, bravo en tout cas. Merci Vincent. Qui prend la parole pour la suite?
Je veux bien. Moi, vas-y. C'est Marion Bertrand. Ouais. J'avais fait un stage au Stirput à la fin de mes études, il y a à peu près en même temps que Vincent Wegner est arrivé, donc en 2018 ou 2019, un truc comme ça. Et quand je suis revenue à Bruxelles, m'installer définitivement, parce que je viens de France à la base, j'ai direct décidé de retourner au Stirput en tant que bénévole et de m'impliquer en tant que membre. De plus en plus, donc là ça fait 2 ans et demi que je m'implique un peu plus à chaque fois et que voilà, je fais partie aussi de l'asso en tant qu'administratrice maintenant. Mm-hmm. Voilà.
Du noyau dur de la SBL, de l'organe d'administration, super. Merci Marion. Et bien entendu, alors pour terminer, Hélène, alors du coup.
Oui, voilà, donc moi c'est Hélène Mario. Ben, moi je suis investie au Stirput, je pense, depuis 2019. Je suis arrivée au Stirput via des amis et des connaissances. J'ai commencé à fréquenter le lieu. Sinon, voilà, avant ça, moi je faisais plutôt de la photo, donc pas forcément l'art qu'on montre au Stirput. D'ailleurs, pas du tout l'art qu'on montre au Stirput. Mais j'ai été assez fascinée par le lieu et j'ai voulu plus m'investir dedans. Et c'est vrai que j'ai vraiment. Plonger dans l'univers du Stirput avec les fanzines, avec l'art qu'on peut montrer. Et donc voilà, depuis 2019, je suis investie dans l'asso et je suis aussi administratrice dans le noyau dur, comme tu disais.
Mmh. D'accord.
Et, voilà. Et à côté, voilà, moi je fais une thèse à l'université, donc c'est pas vraiment la même ambiance, mais voilà, c'est chouette de faire les deux choses.
Merci beaucoup. Il y a comme un thème qui ressort ici quand même, et c'est vrai que bon, je suis pas encore allé sur place, mais je vais bien entendu y aller, c'est prévu. C'est le mot fascination, la fascination artistique. C'est quand même quelque chose d'important quand même, non ? C'est un peu comme un gros punch, quoi. On est là, on se dit waouh, quoi. C'est complètement presque voilà aliénesque, quoi. C'est un truc un peu extraterrestre, non ?
Oui, en tout cas, moi personnellement, c'est un peu l'impression que j'ai eue les premières fois où je suis venue au Stérput pour voilà, voir les expos, pour participer au vernissage, boire un verre ou autre. J'ai trouvé que c'était un peu une bouffée d'air frais dans le paysage culturel, donc je ne connaissais pas encore à l'époque, voilà, il y a quelques années, et j'étais très heureuse de découvrir un tel lieu qui montre un art qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres endroits, dans des galeries plus classiques ou dans des événements culturels voilà, plus classiques. Et j'ai trouvé que ça faisait vraiment du bien. Et voilà, il y avait une certaine fascination, c'est vrai, peut-être pour le lieu, parce qu'en fait, finalement, voilà, on peut se décrire comme une galerie, mais moi, je décrirais plutôt le Stérput comme finalement un lieu qui montre un certain type d'art, mais qui organise aussi des événements. Voilà, les vernissages des expositions qu'on fait. Il y a 6 grosses expos par an. Voilà, les vernissages sont toujours un événement assez chouette à vivre, où les gens se rencontrent, etc. Il y a aussi pas mal d'ateliers. Il y a des moments où il y a des performances sonores. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un lieu et une sorte de microcosme où il y a toute une scène un peu alternative bruxelloise qui peut se retrouver.
C'est vrai qu'effectivement, on le ressent bien quand on s'intéresse, en tout cas, je dirais, aux activités qui sont organisées. On a vraiment l'impression qu'il y a ce côté communautaire, ce côté associatif, comme tu l'as dit, un microcosme vraiment de personnes qui se retrouvent, des artistes, des néophytes, le grand public. Donc, quelque part, on peut dire que c'est un excellent endroit quand on veut découvrir finalement un nouveau lieu, quoi, en tant que découvreur culturel ou tout simplement en tant que simple, voilà, en tant que simple passant, quoi. Je veux dire, voilà, on voit ça, puis on a envie de s'arrêter, quoi, histoire d'en savoir un peu plus. Donc quelque part, est-ce qu'on peut dire que c'est un havre de curiosité ?
Oui, complètement. Bah, ça se veut, après, vachement ouvert, justement, à tout ça. T'es pas besoin d'être un artiste pour venir nous voir.
C'est
ça,
en fait.
D'être un artiste pour comprendre ce qu'on fait. Et si t'en es un, tu es le bienvenu pour autant. Il n'y a pas d'espèce de tri comme ça, fait sur... voilà, des gens qui pourraient comprendre ou ne pas comprendre ou être proches ou éloignés de l'art. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de rassembler tout le monde, et on traite avant tout d'images quand même, avant tout, et puis c'est ça qui est censé agripper le regard en premier lieu. Tu viens pas pour investir ton argent dans une œuvre, tu viens pas pour démarcher et être chercher absolument à vendre toi ce que tu fais. On essaie vraiment d'être en dehors de ce circuit. On parle de galerie, mais c'est pas du tout marchand ce qu'on fait. C'est vraiment dans un autre objectif, et c'est vraiment par l'art et surtout l'art visuel qu'on essaie d'attirer et de faire se rencontrer tout un tas de gens. Et j'ai coupé Vincent qui allait dire quelque chose, mais...
ouais, c'est aussi qu'il y a toute une scène alternative mondiale qui se retrouvent dans des lieux comme le Stérput. Et à Bruxelles, c'est le seul ou un des seuls qui fait ce genre d'exposition et qui montre ce genre d'art. Et il y a aussi le fait que tous les étudiants, ils peuvent exposer chez nous. Il y a beaucoup d'étudiants, c'est leurs premières expositions sur Bruxelles. Ça se fait au Stérput, parce que justement, nous, on est vachement open. Et puis, ils peuvent faire des dépôts d'affiches, de fanzines qu'ils ont imprimées eux-mêmes, etc. quoi. Donc, ce qui est important, c'est que c'est un lieu, en fait, je pense, et, comme disait Hélène.
Oui, et c'est vrai que Vincent vient de le mentionner. Il y a plusieurs espaces dans le lieu, j'ai envie de dire. Il y a plusieurs types d'activités et de propositions culturelles qui existent. 6 fois par an, on organise des expositions qui prennent plus de place dans la galerie. Donc, il y a toujours une grosse exposition qui met en avant généralement 2 artistes, à part une fois par an en été, où c'est une multitude d'artistes qui se retrouvent autour d'un thème. Mais en dehors de ça, voilà, plus régulièrement, peut-être toutes les 2 semaines, il va y avoir des expositions, on va dire des expositions éclairs qui durent moins longtemps. et qui justement permettent à des artistes locaux, à des artistes qui se lancent, à des étudiants, de montrer leur travail et de présenter un peu qui ils sont. Et en dehors de ça, on a aussi un espace librairie, un espace distro où on propose toute une série de livres, de zines, de gravzines, de productions à la consultation et à la vente, dont nos éditions aussi. Et quelque chose peut-être qu'on n'a pas dit, c'est que le Starput, à la base, c'est aussi un projet qui veut mettre en avant des pratiques éditoriales alternatives, donc tout ce qui est micro-édition, fanzine, vraiment donner la place à des productions qui sont peut-être à plus petite échelle. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un côté au Starput qui est... Tout ce qui est images imprimées, dessins, peintures, livres, c'est vraiment le focus de notre lieu.
D'accord. Je veux juste rebondir sur quelque chose. Moi, je trouve ça génial de pouvoir favoriser l'émergence artistique. Justement, quand on démarre, quand on n'a pas encore vraiment fait ses preuves ou qu'on n'est pas passé par des comités, par exemple, qui sont très, très stricts, on a cette opportunité, on a cette porte ouverte, quelque part, de pouvoir montrer ce dont on est capable. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette, quoi. De pouvoir donner cette chance-là aux étudiants et à d'autres personnes, quoi.
Oui, et peut-être que dans un sens, le mot d'émergence, c'est pas forcément le mot qui peut convenir, parce que finalement, c'est un mot qui s'inscrit dans plutôt les circuits classiques de l'art contemporain. Voilà, on est émergent et après, on explose sur le marché. Au final, le Starput montre plutôt quelque chose d'alternatif, peut-être plutôt que vraiment... Enfin, on peut dire émergent, mais peut-être plutôt dans le sens... Voilà, à combiner avec cette notion d'alternative, je pense, et c'est vraiment quelque chose en parallèle d'autres circuits. Et voilà, dans l'absolu, je pense que les artistes qui viennent exposer chez nous, que ce soit pour des petites expos ou des plus grosses expos, un grand nombre n'a pas forcément l'ambition de s'inscrire dans un circuit plus classique de galeries d'art contemporain et d'un marché autre, quoi.
Oui, ils ne sont pas professionnels, entre guillemets. Forcément, l'art vient pas seulement des artistes qui se revendiquent en tant que tels, l'art vient de tout un tas de gens qui ont des pratiques parfois qu'on peut qualifier du dimanche, mais ça n'empêche pas que ces pratiques marginales ou plus cachées sont pas hyper intéressantes. Du coup, c'est ça aussi effectivement, par rapport au mot émergent, qui est pas forcément le meilleur terme, effectivement, puisque émergent impliquerait qu'on devienne pro, peut-être. Mais,
peut-être,
une volonté, ouais, une volonté de l'ambition, quoi, en fait, c'est ça. Il n'y a pas...
Plus l'ambition que l'émergence, la poursuite vers des circuits un peu plus traditionnels. Ok, on a bien compris. Alors peut-être pour revenir, un peu à la racine, en fait, donc, de votre objet artistique, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ça. Donc, vous parlez d'un art contemporain et hors norme. Est-ce que vous pourriez un peu délimiter ce que vous voulez dire par là?
Alors contemporain, c'est on expose quasiment que des artistes vivants, donc déjà ça peut être une bonne base, pas que, mais surtout parce que l'objectif c'est de défendre des artistes qui sont actuellement en train de créer. Et donc contemporain pourrait juste déjà se résumer à ça, c'est tout simplement actuel avant tout. Et c'était quoi l'autre?
Hors norme.
Hors norme, oui, voilà. Hors norme dans le sens où à l'inverse de normé, c'est-à-dire qu'il n'est pas passé une sorte de filtre de qu'est-ce qui serait, encore une fois, intéressant d'un point de vue du marché de l'art ou intéressant d'un point de vue peut-être d'un propos qu'on voudrait donner ou quelque chose. Là, c'est vraiment l'image qui nous intéresse. Et il n'y a pas de filtre. Il y a le filtre de notre regard à nous qui programme les artistes, mais il n'y a pas d'autre filtre que ça. En fait, c'est simplement juste qu'on ne veut pas faire rentrer les choses dans des cases et au contraire, c'est même celles qui sont en dehors des cases, c'est-à-dire... en dehors de ce qu'on peut voir dans la plupart des galeries aujourd'hui, qui nous intéresse.
D'accord. Quels sont les thèmes artistiques, alors, que vous promouvez, de manière générale?
Au niveau des thèmes, je pense qu'on ne base pas nos expos, donc les expos principales qui durent 2 mois avec 2 artistes, on ne les base pas nécessairement sur un thème particulier. C'est un comité de membres de l'association qui s'occupe de la programmation des expos. Et donc, on se réunit et on essaye de faire des propositions selon ce qui nous a marqué, ce qu'on a pu voir, selon ce qui nous plaît, selon des personnes qu'on a pu rencontrer, selon ce qu'on a pu voir en ligne ou dans d'autres lieux. Et on essaye de mettre ensemble 2 artistes par expo qui ont un travail qui peut fonctionner ensemble. Et ce n'est pas forcément des artistes qui se connaissent déjà, donc ça permet aussi une rencontre parfois. Mais il n'y a pas forcément de thème. Il y a une seule fois par an, donc en été. On organise à chaque fois en été une exposition collective, donc avec plus de 2 artistes, généralement une dizaine, quinzaine. Et cette expo-là, par contre, elle est organisée autour d'une thématique ou d'un médium artistique. Par exemple, cette année, c'était autour des pratiques, de tout ce qui était textile. Donc c'était vraiment, c'était assez large, évidemment, mais ça parlait plutôt... De textile. L'année prochaine, ce sera plutôt autour d'un thème, ce sera autour des jouets, au sens très large. Voilà. Et donc, ça, c'est le moment où on a vraiment des expositions thématiques. Sinon, la programmation se fait via les rencontres et les intérêts des membres, et les décisions sont prises. On prend les décisions ensemble. Quoi.
Tout est collectif, alors, c'est ça, si je puis dire. Ok, très bien. Quels sont les types de déclinaisons artistiques alors que l'on retrouve chez vous?
Principalement, quand on rentre dans le lieu, évidemment, on voit tout simplement des choses au mur, parfois des choses au sol aussi, il y a parfois du volume.
D'accord.
On va pouvoir trouver des productions d'art visuel. Et quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore mentionné, c'est que le Starput est aussi... on édite également des livres. Donc pour chaque exposition, donc 6 fois par an, on édite un ouvrage qui reprend... Donc, ce n'est pas un catalogue d'exposition, c'est vraiment un ouvrage, un livre d'artiste lié aux productions des 2 artistes qui sont montrés.
Oui, et puis on va essayer de faire un livre en sérigraphie ou en réseau, ou essayer de faire un chouette objet. Pas seulement un catalogue de ce qu'on trouve à l'exposition, quoi.
En termes d'œuvres, j'ai l'impression que c'était aussi un peu ta question.
Tout à fait, oui, c'est ça.
Nous, on est quand même focus sur l'art visuel, donc il n'y a pas trop... c'est exceptionnel qu'il y ait des choses plus sonores ou des projections, mais nous, c'est plutôt peinture, dessin, des pratiques papier, en tout cas, pour bon nombre d'entre elles, je dirais. Au niveau des thèmes, même si on les choisit pas en tant que tels, il y a des choses quand même qui reviennent un peu plus autour de choses qui pourraient se rapprocher de l'art brut ou des témoignages des manières de voir. Souvent, l'art marginal vient aussi de personnes qui sont elles-mêmes marginales et qui ont aussi un regard parfois différent ou en tout cas vraiment unique sur ce qui les entoure, et du coup une manière assez unique de le retranscrire. Et du coup, c'est tout ce genre d'esthétique qui nous interpelle. C'est pas des choses qui suivent forcément des mouvements artistiques précis, c'est vraiment des points de vue, et on est beaucoup autour de l'art figuratif et de l'art... ça va rarement être des choses très abstraites, ça va souvent être très coloré, ça va souvent toucher à des thèmes un peu plus tabous parfois. Il y a aussi peut-être un petit fil rouge quand même entre tous ces artistes qui sont issus de la marge, quoi.
Très bien. Alors, on peut être juste dire où se trouve alors le Starput.
Alors, c'est rue de Laeken 122, dans le centre de Bruxelles.
Donc, très facilement accessible.
Très facilement accessible entre De Brouckère et Isère.
L'entrée est gratuite?
L'entrée est gratuite, donc le Starput est ouvert le jeudi soir de 17h à 20h, et ensuite vendredi, samedi, dimanche, l'après-midi de 14h à 18h, et l'entrée est gratuite, évidemment.
Chaque semaine, c'est ouvert?
Chaque semaine, à part en été, 3 semaines au mois d'août.
Très bien, parfait. Je vais passer un second morceau de musique, ce sera une surprise, je vais voir un peu lequel passer, mais avant toute chose, peut-être parler un peu de l'agenda, peut-être mentionner un prochain event, ça va?
Oui.
À tout de suite.
Alors, notre agenda, il commence dès le jeudi 9 novembre pour le prochain gros vernissage. Là, il y a un vernissage, en fait, en ce moment même, à l'heure où on parle, au Starput. Mais donc, voilà, si vous n'y êtes pas encore, courez, parce que ça se termine dans 1h30. Et sinon, notre prochaine grosse exposition, c'est une exposition de Motohiro Ayakawa et Diego Lazarin. C'est le 9 novembre. En même temps qu'une petite expo de 15 jours de l'Orbis, qui est une petite micro-maison d'édition bruxelloise. Et suite à ça, il y aura plusieurs ateliers de collage, de reliure, de fanzine pendant tout le mois de novembre. Et vous pouvez retrouver tout notre programme en détail sur notre site et puis sur nos réseaux Facebook et tout ça.
Parfait, un grand merci. Alors, on va s'écouter un second morceau de musique. C'est du Psychobilly. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe. Ça s'appelle The Nuns. Est-ce que ça vous dit quelque chose? N-U-N-S.
Absolument pas.
Absolument pas. Un groupe de Psychobilly bien, bien, bien provoque avec Do You Want Me On My Knees. Et c'est parti. On y va.
got $100 million, and nothing else will satisfy you. Do you want me on my knees? Do you want me on my knees? Do you want me on my knees? And you say yes. Yes. A note to the Inquirer could put an end to all of this. I shared your body and your world and all of its emptiness. Do you want me on my knees? Do you want me on my knees? Do you want me on my knees? And you say yes! Yes! You gained the world. You gained the world and lost your soul. We play the game, but someone else is in control. Do you want me on my knees? Do you want me on my knees? Do you want me on my knees? They all say yes! Yes! I am dehumanized. I have no identity. I guess it doesn't matter what you do to me. Do you want me on my knees? Do you want me on my knees? Do you want me on my knees? We all say yes! Yes! So! Like this? Do you want me on my knees? Do you want me on my knees? Me on my knees, and you say yes. Yes. Please, do you want me on my knees? Please, do you want me on my knees? Like this?
Ben voilà, de retour dans le jardin public, après ce groupe bien provoque des années 80s, The Nuns. Voilà, alors, donc, je suis avec le Sterput et l'ASBL E carré. Et donc, question que je vais poser bien sûr à mes invités, on va parler un peu des ateliers, ce qui m'intéresse. Voilà un peu le genre d'atelier que vous organisez, on en a un petit peu parlé, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est peut-être la ligne pédagogique. Un peu comment est-ce que vous organisez les ateliers et qu'est-ce qu'on peut effectivement espérer apprendre. Et je vous rejoins tout de suite.
Alors, en fait, les ateliers, il y a plusieurs sortes d'ateliers. Donc, il y a des ateliers qu'on donne en fonction des expos. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un gros vernissage pour une de ces grosses expos, les artistes vont donner deux ateliers avec... donc un atelier qui se fait avec une autre ASBL qui s'appelle L'Autre Lieu et un autre atelier qui est ouvert au public et qui est donc le samedi où tu parlais tout à l'heure. Et donc ça, c'est des ateliers qui se font en fonction des expositions et de la pratique des artistes qui sont présents pour les gros vernissages. Et sinon, on est plusieurs à donner des ateliers réguliers au Sterput. Donc, par exemple, moi, Vincent Wagner, je donne des ateliers fanzine. Le mardi soir, je ne sais plus quel mardi soir au niveau du mois, c'est, mais...
Ce mois-ci, c'est le mardi 21.
Voilà.
Novembre.
L'avant-dernier mardi. On se retrouve autour d'une table et puis on dessine et les gens repartent avec un fanzine qui a été fait en 2 heures, quoi. Et sinon, il y a Marine Penouette qui donne des ateliers gravure. Il y a Zoé Kennel qui donne des ateliers reliure. Il y a Shane Osdemir qui donne des ateliers en famille, donc pour les parents et les enfants. Ça, c'est le dimanche après-midi. Et j'en oublie aussi.
Ça, c'est les choses ouvertes au public.
Ouais.
Il y a aussi des ateliers qui sont en collaboration avec d'autres ASBL. Donc, tu parlais de L'Autre Lieu.
Ouais. Et de l'accordiante aussi.
Et le PCS Merlot.
et le PCS Marlowe.
Ce sont des publics un peu plus fragilisés, non? En tout cas, je pense pour l'autre lieu. Hein. Il y a des situations de déficience, là, un peu.
Ouais, voilà. Moi, je fais aussi des ateliers. Par exemple, ce matin, j'ai donné un atelier avec, avec l'accordiante, qui aussi, c'est aussi c'est des personnes en situation de handicap. Et donc, je leur fais découvrir des différentes pratiques artistiques.
Mmh. À chaque fois, je précise que quand c'est des ateliers ouverts au public, pour le coup, c'est toujours ou quasiment toujours à prix libre. Ouais. Et c'est aussi, ça fait partie un peu de la politique d'accessibilité qu'on recherche. Et du coup, les ateliers hors public tout venant, donc ceux qu'on fait en collaboration avec d'autres assos, c'est aussi une manière de présenter le travail des expos en cours ou de le travail qui nous intéresse au Starput et de donner des clés aux gens pour qu'ils puissent eux-mêmes pratiquer. Parce que l'art, on est tous d'accord au Starput pour dire que l'art ne vient pas que des artistes avec un grand A, mais que tout le monde peut le pratiquer, tout le monde peut le faire. Et l'idée, c'est aussi de leur donner les moyens aux personnes que ça intéresse de pouvoir faire leurs propres zines, leurs propres reliures, leurs propres collages. Et c'est tout ce genre de pratiques qu'on met en avant et qu'on cherche à donner envie en fait, aux gens de pouvoir les maîtriser et les utiliser pour eux-mêmes.
Mmh. Et souvent, les gens, ils font plusieurs ateliers, c'est-à-dire que les gens qui vont faire atelier reliure, ils vont faire atelier fanzine aussi, pour pouvoir maîtriser toutes les étapes de la chaîne.
De l'auto-édition.
Ouais,
de l'auto-édition, c'est ça. Moi, j'ai une chose qui me vient vraiment en tête, et je pense que c'est sans doute ça, c'est permettre au public de pouvoir se réapproprier un peu l'espace artistique, probablement, un peu... Vu qu'on parle justement d'accessibilité. Alors, j'ai une question par rapport aux ateliers. C'est la question du Kidam. Hein. Je ne suis pas doué, je n'y connais rien, mais ça m'intéresse quand même. On sait très bien qu'effectivement, l'imaginaire du dessin, le fait de pouvoir s'exprimer. Mais quand on n'a pas la base, est-ce qu'on peut quand même s'inscrire? Est-ce que vous avez du temps à consacrer effectivement à chacun des participants pour pouvoir...
C'est l'envie.
Ouais, je pense qu'on part du principe qu'il n'y a pas forcément cette notion de doué, pas doué. C'est plutôt l'envie qui est censée motiver les personnes qui viennent aux ateliers. Et donc, il n'y aura pas de jugement de valeur au Starput si quelqu'un arrive et ne n'a jamais vraiment pratiqué, mais a la curiosité de le faire. J'ai envie de dire, c'est aussi, notamment pour ce genre de personnes, qu'on fait cet atelier. Voilà, et donc il suffit de s'inscrire comme n'importe quel participant et de venir lors de l'atelier et de partager quoi, de partager un peu avec d'autres personnes qui ont d'autres expériences et de créer ensemble.
Mmh. Très très bien.
Ouais, parce que t'as des trucs purement techniques hein, comme la reliure, la reliure ou la gravure où il faut connaître juste moi quand je donne des ateliers de fanzine, les gens ils disent ah mais moi je dessine pas, je sais pas bien dessiner ce genre de truc et tout, et donc je leur explique que le fanzine ça peut être de la photo, du texte, ça peut être plein de trucs différents et que même si vous venez aux ateliers fanzine vous êtes pas obligé de dessiner quoi, mais c'est pas parce que il y a des artistes qu'on est obligé de dessinateur, qu'on est obligé de faire du dessin ou ce genre de truc.
C'est vraiment d'abolir un peu, d'abolir.
Les frontières du...
Ouais, voilà, du qui est légitime à faire et qui ne l'est pas. Et il y a souvent un peu ce truc dans l'art plus classique, un peu de, le nom de l'artiste est très important, la pratique, son propos, etc. Et c'est pas vraiment ce qu'on défend, nous, c'est vraiment plus l'envie que t'as de t'exprimer. Et nous, on peut permettre ou t'apprendre, si ça t'intéresse, des moyens que tu connaissais peut-être pas ou que tu voulais développer un petit peu. Et puis, d'abolir vraiment ce côté, toi, t'es légitime à t'exprimer, à faire un petit livre, par exemple, ou parce que les gens pourraient se dire, je suis pas auteur, je suis pas artiste, je suis pas dessinateur, je suis pas talentueux, mais t'as pas moins de choses à dire que quelqu'un d'autre, en fait. Et si tu souhaites le faire, alors tu dois pouvoir avoir les clés qui peuvent te le permettre.
Et je pense que c'est en ça aussi qu'on s'inscrit pas mal dans la scène du fanzine et de l'auto-édition. Voilà, c'est cette idée que tout le monde finalement peut produire un petit fanzine. Enfin, c'est à la base de l'histoire des zines et c'est en ça qu'on s'inscrit dans ces pratiques-là aussi et qu'on veut les rendre accessibles à qui le souhaite. Quoi.
Mm-hmm. Ça, pour rebondir dessus, pour dire qu'on a tous et tout un potentiel caché, bien entendu, qui ne demande qu'à être mis en lumière, si je puis dire, de façon un peu poétique. Revenons un peu au B.A.B. artistique. On sait tous c'est quoi un magazine, mais le fanzine, c'est quoi le fanzine? s'il faut l'expliquer aux gens qui n'y connaissent rien du tout.
Du coup, un fanzine, c'est la contraction de deux mots, donc de fan, donc on a un fan, quoi, fan 2, et de magazine, donc c'est un magazine de fans. Et ça peut aller dans tous les, comment dire, dans tous les sens. Ça peut être du texte, du... Et c'est un petit magazine à très peu d'exemplaires, généralement auto-publié et auto, tout ce qui est la distribution et tout ça, c'est fait par les personnes qui le créent, en fait, quoi.
Oui, le fanzine, ça prend en racine il y a quand même pas mal de décennies. Je pense que c'est dans les années peut-être 70-80 qu'il y a vraiment eu un peu une explosion du fanzine, oui. Avec des sous-cultures comme tout ce qui est films de genre, films d'horreur et certains types de musique, du punk et ce genre de choses. Les publics de ces scènes-là, en fait, s'organisaient pour faire leur propre production parce que c'est des choses qui ne se retrouvaient pas dans la presse mainstream. Oui. Et au final, voilà, ce petit objet qui est un petit livre, à la base, c'est des choses photocopiées ou faites à la main qui se passent de main en main dans un milieu bien défini d'amateurs d'un certain type de musique, de film ou autre. Bah, voilà, par extension, le mot fanzine a commencé à désigner aussi tout type de production un petit peu homemade que même des artistes peuvent faire. Après, au niveau de la terminologie, voilà, on peut dire fanzine, gravzine. Gravzine, ce serait plutôt une production faite par des artistes avec un côté visuel. Ouais. Bon, voilà, il n'y a pas de mots bons ou mauvais à utiliser. On peut parler de pratiques d'auto-édition aussi, peut-être pour être plus large, mais c'est vraiment ça qu'on met en avant, ouais. nous, Starput.
D'ailleurs, on est souvent présent dans les festivals de micro-édition un peu partout en Europe, quoi. Et pas seulement... à Bruxelles, parce qu'il y en a déjà pas mal à Bruxelles, mais aussi on se déplace. Il y a une semaine, on était à Nantes, on a fait une exposition également. On va en Allemagne, on va en Suisse, on va en France surtout. En Italie. On va en Italie aussi.
On fait toute une série de festivals de micro-éditions ou de productions alternatives éditoriales pour montrer nos éditions à nous, quoi, les livres qu'on fait depuis le début du lieu à chaque expo. Ouais. Ça permet aussi de créer des liens avec d'autres associations, d'autres personnes qui ont des pratiques similaires et d'échanger et de diffuser notre travail aussi.
Mm-hmm. Vous avez un peu conservé ce côté itinérant, un petit peu, que vous aviez, en tout cas, dans votre jeunesse, quoi. Le fait de vraiment...
Oui, après, au début, voilà, le Starput était la création de la SBL E-carré, simplement parce qu'il n'y avait pas forcément de lieu. C'était une SBL qui naissait, ouais, et donc les expositions se faisaient dans différents endroits, à Bruxelles, par exemple, le Recyclard, ou chez qui ils voulaient bien nous accueillir. Et après quelques années, on a eu un premier lieu également dans le centre. Et ici, depuis 2018, on a ce lieu qui est un peu plus grand. Mais oui, là, du coup, avec les salons et la présentation de nos éditions, l'itinérance, elle se fait à une échelle plus large aussi.
Elle fait sens vraiment, voilà. Vu que le fanzine, comme tu disais, se passe de main en main. C'est encore le cas. Il faut que ça le reste. L'idée, c'est pas de garder l'art dans un endroit précis où tu dois te déplacer, y aller pour y avoir accès. C'est aussi l'art qui doit pouvoir venir à toi et toi qui dois pouvoir réussir à toucher d'autres gens aussi en dehors de quatre murs, quoi.
Et c'est vrai que dans ce côté itinérant, on organise aussi des événements ou des expos hors les murs du Starput, donc généralement une fois par an ou deux, ça dépend un petit peu des occasions. Donc dans d'autres lieux que notre lieu à nous, qui est rue de Laeken. L'année dernière, par exemple, ou au début de cette année, on a fait une expo au Brass, le centre culturel à Forêt. Comme Vincent le disait, il y a une semaine, 10 jours, il y avait une exposition d'artistes liés au Starput et du Starput à Nantes, lors d'un autre salon. Là, c'est des choses qui se font régulièrement et qui sont assez essentielles dans notre activité aussi pour montrer ce qu'on fait en dehors de nos murs.
Mmh. Très bien, merci beaucoup. Alors, c'est une question que je pose souvent, bien entendu, en tout cas, voilà, personnes qui sont ancrées dans le milieu artistique. C'est un peu la question, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à la censure artistique, ou est-ce que justement vous êtes vraiment l'autocensure le plus large possible, vraiment, voilà, on dit tout, vraiment tout ce qu'on a sur le cœur, ou est-ce qu'il y a vraiment là quelque chose où on peut pas aller trop loin non plus?
On a un peu réfléchi à cette question, du coup, même si elle est pas tellement au centre, parce que nous, en fait, je dirais qu'on n'a même pas vraiment de question de censure, on a plus une question peut-être de sélection, avant tout. On n'est pas là pour censurer quelque chose qui ne nous plairait pas, on est là pour mettre en avant des choses qui nous plaisent. Et pour ça, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de prérequis, on n'a pas vraiment de choses qui nous bloquent ou de cases dans lesquelles il faut rentrer particulièrement. Donc au niveau de la censure, nous, c'est vraiment pas une question qu'on se pose au quotidien, c'est pas du tout une problématique qu'on a. L'important, c'est vraiment de mettre en avant des choses qui nous plaisent et qui nous semblent aussi, bien sûr, en accord avec nos valeurs qui sont celles de plusieurs personnes. Il n'y a pas une entité qui décide pour les autres, on est en collectif, donc chacun choisit ce qu'il veut, le soumet au reste du collectif, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais on n'a pas vraiment de... Enfin, peut-être que... Il n'y a pas que mon avis, peut-être que certains auront peut-être un autre rapport à ce qu'ils pourraient qualifier de censure. Mm-hmm. Donc voilà, c'est peut-être assez aussi un peut-être personnel.
Oui, je pense subjectif, que c'est, non c'est ouais. Subjectif, mais en même temps, je me rattache un peu à ce que tu dis, et j'insiste sur le collectif, on prend les décisions de programmation des grosses expos ensemble, c'est un comité d'une quinzaine de personnes qui se réunit pour programmer, et c'est vrai que je pense que chaque membre de ce comité sur les expos et la programmation a ses propres valeurs et ses propres envies, les choses que la personne veut montrer, les artistes qu'il veut mettre en avant, etc. Et effectivement, on peut imaginer que dans ce type de réunion, il puisse y avoir des discussions sur, ok, est-ce qu'on peut montrer ça, voilà, des discussions par rapport aux valeurs de chacun, mais les décisions se prennent collectivement. Après, je pense qu'on a tous et toutes des limites qu'on n'a peut-être pas envie de dépasser, mais voilà, c'est des discussions qu'on peut avoir quand on fait la programmation de l'expo. Et c'est vrai que, comme Marion le disait, c'est pas des questions qui se sont posées récemment dans le travail qu'on fait.
Mais par contre, on prévient notre public que c'est pour un public averti la plupart du temps, parce qu'il y aura quand même des thématiques liées à la sexualité, liées à une forme de gore aussi, des fois, enfin voilà, ça peut être des représentations. Encore une fois, nous, on défend pas un propos, on défend une image, une esthétique avant tout, et c'est vraiment là-dessus qu'on se base. Et ensuite, on avertit aussi que le public, mais notre public nous connaît, entre guillemets, c'est rare qu'on se retrouve face à des gens qui débarquent vraiment sans avoir aucune idée de ce qu'ils font là et qui sont vraiment choqués. Après, vu qu'on accueille aussi parfois des publics plus fragilisés ou des enfants, on fait aussi en sorte que... qui soit à l'abri aussi de choses qu'un enfant ne pourrait pas voir. Mais ça, c'est voilà, plutôt dans c'est le cadre des ateliers, au cas par cas.
Mm-hmm. Quel est votre public, alors, finalement, en gros? C'est vraiment le sens le plus large possible. Enfin, évidemment, des curieuses et des curieux, j'imagine bien, des artistes, certainement. Et puis, bon...
Je pense qu'on a un public assez diversifié et qui se diversifie de plus en plus. Je pense que c'est intéressant de le préciser. Voilà, je pense que le public de base du Sterput, c'est des personnes qui sont généralement impliquées dans une sorte de scène alternative artistique à Bruxelles, que ce soit, alors au sens très large, hein, que ce soit au niveau de la musique, de l'art visuel, de production sonore, voilà, pas mal de choses, et que ce soit au niveau de la pratique de ces gens ou même de leurs intérêts, quoi. Je veux dire, c'est plutôt des personnes qui ont ce genre d'affinité, mais finalement, le public se diversifie. Comme je disais, on a pas mal de... Par exemple, de personnes qui sont, enfin, d'étudiants qui commencent à fréquenter le Sterput via une expo qui a pu être faite avec leur section. Donc ça rajeunit aussi notre public, ça ramène de nouvelles personnes assez régulièrement. Et en dehors, voilà, il n'y a pas que des expos avec des étudiants ou des écoles. Dans les expos éclairs, il y a aussi des expos d'artistes locaux qui n'ont pas forcément fréquenté le Sterput auparavant et donc qui viennent, qui ramènent un autre public. Donc il y a quand même un brassage assez assez important. Évidemment, il y a des personnes qui sont qui fréquentent plus souvent le lieu que d'autres, mais oui, c'est assez large, quoi, le public qu'on accueille. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui passent par là et qui sont curieux, qui rentrent et qui viennent regarder. Est-ce qu'ils reviennent après ça? On a pas. Voilà. Oui, ils viennent boire une bière aussi. On a.
Ouais. Mais, enfin, il y a plein de raisons de passer. Il y a des gens juste qui aiment bien boire une bière et d'autres qui aiment.
Ah oui, d'accord.
Il y en a qui.
Il y a un bar, c'est ça?
Oui, il y a un petit.
Oui, un petit bar qu'on utilise pour les vernissages, quoi.
Ah oui, d'accord, ok. Oui.
Mais oui, c'est aussi. Ça peut être un très bon, très bonne excuse pour venir. En tout cas, l'important, c'est d'y être, c'est d'être là, et c'est. Et puis c'est aussi des gens qui partagent le principe du fonctionnement associatif, ce qui sont souvent impliqués dans eux-mêmes dans des milieux associatifs ou engagés dans des démarches sociales ou d'inclusion ou culturelles.
Voilà. Après, il y a une scène générale qui, je
pense, je sais pas, moi, si je vais à Marseille, je vais faire un tour au dernier cri. Ces gens-là, ils vont venir à Bruxelles, ils viennent faire un tour au Sterput ou à Aerochrome ou d'autres lieux comme ça, quoi. Mais une espèce de groupe de personnes qui est un peu toujours. Pas toujours les mêmes, on va dire,
traducteurs. C'est pouvoir nourrir un petit peu, voilà, le microcosme, quoi. Voilà, de pouvoir faire partie de ces curieuses et de ces curieux. Très bien. On va rappeler qu'il y a un espace librairie chez vous, quand même, donc qui est dédié à la microédition, c'est ça?
C'est ça. Microédition, fanzine, gravzine, des éditions plutôt alternatives. Et donc dans cet espace distro, on a nos éditions à nous, donc on peut quasiment toutes les trouver, celles qui sont encore en stock sur place. Mais on sélectionne aussi d'autres artistes, d'autres maisons d'édition, on sélectionne ça en collectivité aussi. Et donc il y a quand même une bonne sélection de livres auto-édités, micro-édités, etc., à consulter ou à acheter sur place.
C'est très pour eux. La plupart des artistes qu'on a au Sterput ont aussi une pratique éditoriale. Et du coup, c'est tout très lié. C'est souvent des artistes de BD, ouais. Du fanzine. En fait, les expos et la librairie marchent vraiment ensemble. Donc c'est vraiment un tout... cohérent, on va dire, c'est pas vraiment séparé.
Oui, il y a des livres, il y a aussi par exemple des affiches, des sérigraphies, etc.
On peut acheter aussi alors.
Oui, qu'on peut acheter aussi, qui sont qu'on peut voir sur place et qui sont généralement faites par les artistes qu'on a exposés.
Ok, très bien.
Et c'est vrai que peut-être vu qu'on parle d'acheter sur place, etc. Nous au Sterput, notre but c'est que l'art soit accessible, donc. On ne trouvera pas, normalement, pas de choses hors de prix, comme dans des galeries peut-être plus classiques, tant au niveau des œuvres, des expositions, qui généralement peuvent être à vendre, ou dans les livres ou dans les sérigraphies. Notre but, c'est de rester accessible. Quoi.
Mm-hmm.
Et c'est pas notre mission première n'est pas de vendre, c'est de montrer et diffuser. Donc, dans cette optique-là, les prix restent accessibles.
Et par extension, vous le dites sur votre site internet, hein, vous vous inscrivez dans la logique d'une économie circulaire et durable, me semble-t-il. Je pense qu'on l'a vu écrit.
Maximum, oui, d'office, on essaye aussi de s'intégrer dans l'endroit où on est, de travailler avec des artistes locaux, de faire partie de la vie du quartier et d'avoir un prix juste à la fois pour le public et à la fois pour les artistes aussi. Et voilà, et d'avoir toute cette espèce de possible qui fonctionnerait avec un peu tout le monde sans que personne ne soit lésé ou mis de côté. Ou voilà. Si par exemple tu viens à une expo et que tu es intéressé par l'artiste qui est exposé, mais que tu n'as pas... assez d'argent pour acheter une œuvre originale, même si on essaye de faire des prix accessibles. Tu peux toujours avoir le fanzine, tu peux toujours avoir un autre support pour ramener une partie de cet art avec toi. Et c'est pour ça que c'est important que la librairie, les affiches, les fanzines et les œuvres fonctionnent ensemble. C'est que quelqu'un qui est intéressé par un artiste en particulier puisse se l'approprier aussi à hauteur de ses moyens.
Parfait. Merci beaucoup, Marion. Voilà, on n'a plus que 4 ou 5 petites minutes. Je vais rapidement passer en revue d'autres choses aussi que vous proposez. Donc, des concerts, de temps en temps?
Alors, ce n'est peut-être pas nécessairement
des mini-concerts.
Des concerts, c'est peut-être plutôt de la performance sonore.
La performance sonore.
Ce genre de choses. Voilà. Seulement quand c'est lié à la pratique d'un artiste qui est exposé. Voilà, on n'est pas un lieu de concert. On est un lieu qui ferme relativement tôt aussi, vers 20h, 21h, okay. Quand on a des événements le soir. Ouais. Mais ça, c'est déjà arrivé, effectivement, qu'il y ait des moments où on mettait de la musique en avant, quand ça allait avec l'expo.
Ok, oui, donc ça peut être des gens qui font de la musique qui... tu ne peux pas jouer dans une salle de concert, en fait. Il faut vraiment être dans un endroit plus cosy, parce que c'est de la musique ambiante, ou ce genre de trucs. Enfin, nous, on ne fait jamais de concert, entre guillemets, avec de la batterie. Où ça arrivait peut-être une fois ou deux parce que c'était joué d'une manière assez cool.
Mais, d'accord.
Mais il y a pareil, il y a du tatou potentiellement, il y a de la projection quand on peut. C'est vraiment en fonction des artistes et de.
Des conférences aussi.
Ouais, voilà, exact.
Oui,
des lectures, des choses qui sont en lien avec la pratique artistique de la personne. C'est souvent des artistes qui sont assez.
Catch aussi.
Du catch, il faudrait qu'on en
parle. Du catch plus. Ah oui. Et des cartes blanches aussi, enfin j'ai pu.
Oui, les cartes blanches, ça c'est entre ça. Deux expos plus longues, on donne carte blanche à un collectif, à une asso, etc., qui vient investir le lieu pendant 2 semaines. Ah, voilà. Donc c'est à ces moments-là où on a peut-être on met peut-être en avant des œuvres d'art qui sont moins dans la ligne générale du Sterput, mais qui, ça permet aussi de montrer d'autres, d'autres choses quoi, de temps en temps.
Par exemple, ce soir, il y a un vernissage de l'exposition de Camille Dufour.
Voilà, qui est une artiste ici belge, et donc c'est une carte blanche à Camille Dufour, et donc le lancement est ce soir. Il vous reste 1h10 pour vous y rendre. Il y a également une artiste dans l'espace librairie qui s'appelle Julia Louise, qui montre son travail ce soir.
Très bien. Et pour vous mettre, bien entendu, l'eau à la bouche, ou plutôt, enfin voilà, aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez, voilà, voir un petit peu de quoi il en retourne. Voilà, plus que quelques petites minutes ensemble avant de se quitter avec notre morceau de musique. Alors, c'est une question que j'avais posée hors antenne, mais comment est-ce que vous vous positionnez dans une forme plus militante? Est-ce que vous faites de la militance culturelle? Est-ce que vous...
Alors, la question du militantisme, je pense qu'elle peut être assez large et le terme peut être interprété de différentes manières. Alors, le Sterput en tant que tel ne va pas, par exemple, prendre la parole sur tel ou tel... thématiques ou problématiques de société. Par contre, je pense que quand on... Donc nous, on est une petite structure, on est une ASBL, on est une association, on fonctionne énormément avec des bénévoles. Et c'est vrai que je pense que rien qu'en étant une petite structure qui essaye de proposer un art hors cadre, hors normes, alternatif, voilà, on a parlé de tous ces mots, rien qu'en fait, le fait d'exister, c'est militant dans un sens. Ça peut aussi être perçu comme quelque chose de politique. Voilà, nous, on se met... on se positionne un petit peu en faisant un pas de côté par rapport au circuit de l'art tel qu'il est normalement. On essaye de montrer des artistes, comme disait Marion, qui sont plutôt en marge. Et donc, voilà, au jour le jour, je pense que rien que le fait d'exister, c'est quelque chose d'assez militant. Pareil, voilà, on a depuis quelques années la chance d'avoir des subsides de public, donc un peu de financement de ce côté-là. C'est aussi toujours, je dirais pas une lutte, mais c'est toujours assez important de pouvoir travailler pour garder ce financement, pour en chercher d'autres et pour pouvoir continuer à survivre, en fait, parce qu'on pense, et je pense que toutes les personnes qui sont impliquées dans la SBL et dans le Sterput, on est convaincus que ce qu'on montre est important et qu'il faut continuer de le montrer et qu'il faut continuer de travailler en ce sens-là.
Parfait, merci beaucoup Hélène. Peut-être une dernière question, comment est-ce qu'on peut vous soutenir?
Alors, il y a plusieurs manières de nous soutenir. Voilà, nous, on fonctionne sur le bénévolat. Moi, je pense que la meilleure manière de nous soutenir, c'est déjà de venir visiter le lieu, de ne pas hésiter à discuter avec le ou les bénévoles qui sont sur place à ce moment-là, parce que c'est nos bénévoles qui ouvrent la galerie au moment de l'ouverture. Donc, ne pas hésiter à discuter, à participer, à venir boire une bière lors des vernissages, à venir feuilleter les livres, les acheter... voilà, participer à nos activités et en parler autour de vous. Et après, évidemment, il est toujours possible de donner d'autres types de contributions au niveau financier.
Bénévole, membre, voilà, ouais. Donner beaucoup d'argent. Ouais.
Ça, ouais. Possible. Il y a des mécènes parmi les auditeurs.
Ça ne tombe jamais, bien entendu, parmi nos auditeurs et nos auditrices.
Les ateliers sont en prix libre, donc du coup... Ouais.
Oui.
Voilà. Vous pouvez donner 3, je sais pas, 30 centimes comme 30 euros.
300.
Ouais. 30 000 euros.
3 000. Non, mais soutenez, en tout cas, voilà, soutenez les artistes, c'est important quand même. On a toutes et tous un rôle à jouer en tant que catalyseur, je pense, de cette merveilleuse profusion de créativité. Voilà, on va devoir se quitter, Hélène, Vincent et Marion. Je vais vous donner une minute quand même, carte blanche, peut-être juste pour clôturer l'émission, vous partagez avec nous ce que vous voulez, ça peut à nouveau, voilà, pouvez communiquer peut-être à nouveau une date, hein, donc d'un prochain event, ou n'importe quoi, ce qui vous passe par le cœur ou par la conviction, voilà, artistique. Et je vais rejoindre à nouveau Montigny. Voilà.
Merci déjà de nous avoir accueillis. On peut rappeler déjà où est le Sterput, non? Donc c'est rue de Laeken 122 à Bruxelles, dans le centre de Bruxelles. Et au niveau de l'agenda, bah, comme on l'a dit ce soir, il y a un vernissage qui a déjà lieu de Camille Dufour et de Julia Louise. Et la prochaine grosse expo aura lieu le vernissage aura lieu le 9 novembre. Et donc c'est Motohiro Ayakawa et Diego Lazarin qui expose au Sterput. Donc on espère vous y retrouver nombreux.
Et on espère que ça vous aura donné envie de venir, de pratiquer, de voir l'art autrement peut-être et de vous le réapproprier.
Donnez au Sterput.
Voilà.
Une grosse dédicace à tous les membres et tous les bénévoles du Sterput.
Oui,
sans les personnes impliquées dans la SBL, effectivement, ouais. Les membres, etc., et notre public.
Voilà, longue vie au Starfleet. Merci beaucoup à Hélène, merci Marion et merci Vincent d'avoir été mes invités. Et on se quitte avec un morceau d'un groupe, vous connaissez The Meteors ? Ça vous dit quelque chose ?
Oui, de nom.
Ah, vous connaissez ? Ok. Allez, on se quitte avec The Meteors et Strange Times Are Coming. Très bonne continuation. Au revoir.
Merci, au revoir. When the